Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : Cette parole est dure, qui peut l'entendre ? Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit : Est-ce là pour vous une cause de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait : C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12 : Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ? Pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12.
Vous habitez en Galilée vers l'an 30 de notre ère, à peu près, et depuis quelque temps, vous vous intéressez à l'enseignement d'un certain Jésus de Nazareth, dont la renommée s'étend de plus en plus dans la région. À l'époque, quand on s'intéresse au message de quelqu'un, on ne peut pas le suivre sur Twitter comme aujourd'hui. Il faut le suivre tout court. Il faut le suivre pour de vrai. C'est-à-dire, suivre à l'origine, ça voulait dire, on voit quelqu'un qui marche et on marche dans le même sens que lui. Voilà, c'est avant que l'ère informatique, suivre, c'était ça. Donc, imaginez que vous faites partie de ces sympathisants qui suivent Jésus. Vous appréciez son enseignement. Vous avez assisté aussi à certains miracles. Et notamment, vous venez d'assister à la distribution miraculeuse de pain pour 5000 personnes, voire plus, dans le besoin. Et vous êtes émerveillé. Émerveillé par ce que vous avez vu. Mais ensuite, ça se complique. Jésus commence à dire des choses étranges. Au point que, dans le discours qu'on a vu la semaine dernière, il vient de se présenter comme le véritable pain du ciel, le pain qui rassasie éternellement. Et là, les gens commencent à se regarder. Je suis le pain de vie, le pain qui vient du ciel. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et puis Jésus va aller encore plus loin dans cette image et il va affirmer ceci : Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Un discours qui, hier comme aujourd'hui, paraît a priori presque à la limite du supportable. Et les versets 60 à 71 que Sophie vient de nous lire nous montrent les diverses réactions des personnes qui ont entendu ce discours de Jésus. Et ce soir, je voudrais que nous examinions ce passage pour réfléchir à notre réaction à ce discours. Et plus largement, notre réaction à Jésus, à ses affirmations. Sur lui-même notamment. Et pour ce faire, je vous propose de relever trois questions qui sont posées dans le texte, trois questions qui nous concernent directement. Tout d'abord, qui peut l'entendre ? Ensuite, voulez-vous aussi vous en aller ? Verset 67. Et enfin, verset 68. À qui irions-nous ? Qui peut l'entendre tout d'abord ? Alors on l'a dit, des foules nombreuses avaient commencé à suivre Jésus et ce sont sans doute ces sympathisants, en quelque sorte, de Jésus que le texte qualifie de disciples au verset 60. Ils étaient disciples au sens superficiel où ils avaient jusque-là adhéré au message de Jésus et le mot pouvait éventuellement recouvrir ce sens plus général. Mais la suite des événements va montrer que justement, il ne s'agit pas de disciples authentiques et le texte va montrer en tout cas beaucoup d'entre eux, et le texte va montrer le contraste justement entre ces disciples en CDD, si on veut, et les disciples authentiques. Alors, au début de l'extrait de ce soir, les choses commencent à se gâter, on l'a vu. Jésus vient de parler de manger sa chair et de boire son sang. Et ça a beaucoup choqué ses auditeurs, comme ça nous choquerait sans doute aussi si on entendait directement et pour la première fois ce discours. Alors, comme Paul nous l'a bien expliqué la semaine dernière, Jésus employait là une image. Il ne parlait pas de façon littérale. Il part du constat que la nourriture et la boisson sont vitales. On a besoin de nourriture et de boisson pour vivre. Et ce qu'il dit à ses auditeurs, en gros, c'est eh bien, le pain et le vin ou l'eau vous permettent de survivre physiquement pour un temps donné. Mais si vous voulez la vie éternelle, c'est de moi que vous devez vous nourrir. Voilà en quelque sorte le sens de l'image qu'il donne. Je suis aussi important pour vous que la nourriture et la boisson, et même plus important, puisque c'est de la vie éternelle qu'il s'agit. Et puis en parlant de manger sa chair et boire son sang, il est probable que Jésus faisait déjà allusion à ce qu'il savait déjà, c'est-à-dire qu'il allait donner son corps par la mort sur la croix et verser son sang en sacrifice pour subir à la place des pécheurs la condamnation de la justice de Dieu. Il y avait aussi sans doute ce sens-là. Mais avant tout, il semblerait que Jésus veuille insister sur le fait que c'est lui qui donne la vie éternelle et que pour recevoir cette vie, eh bien, il faut comprendre que c'est en lui et en lui seul que nous serons spirituellement rassasiés. Alors en utilisant des images aussi fortes et aussi choquantes aux oreilles de son auditoire, Jésus veut le faire sortir de son sommeil spirituel, de sa torpeur. Il veut mettre ceux qui l'écoutent devant l'enjeu de vie et de mort qui se présente à eux. L'un des discours les plus célèbres du XXe siècle est celui de Winston Churchill, le 13 mai 1940, alors qu'il devait donner son discours de politique générale pour que la Chambre des communes vote la confiance à son gouvernement. Eh bien, il a focalisé tout son discours sur la guerre terrible à laquelle le Royaume-Uni était exposé, comme beaucoup d'autres pays. Et il a prononcé ces paroles qui sont restées célèbres. « Je n'ai rien d'autre à vous proposer que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. A priori, ça paraît pas très motivant dans un discours. J'ai pas entendu, par exemple, les candidats aux élections municipales nous promettre du sang, de la sueur et du labeur. Mais Churchill, pourquoi est-ce qu'il a parlé comme ça? C'était pour interpeller ses citoyens. Arrêtez de faire semblant que la vie continue comme avant. Notre pays est en danger de mort. Et ce n'est que par une terrible bataille que nous allons pouvoir en sortir. Alors bien sûr, le contexte et le sens du discours de Jésus en Jean 6 sont complètement différents, mais le procédé est un petit peu le même, un discours choc. Jésus veut réveiller spirituellement son auditoire et il leur dit sans fioriture qu'ils ont besoin de lui, un besoin vital de lui pour obtenir cette vie véritable que Dieu donne et que sans lui, c'est à la mort qu'ils s'exposent. Aujourd'hui encore, ça choque beaucoup de dire cela. Ça choquait déjà à l'époque. Et on imagine et on voit la réaction de certains sympathisants de Jésus. Prophète, ok, on veut bien. Envoyé de Dieu, à la limite, mais enfin qu'il se décrive lui-même comme le pain qui donne la vie, ou encore celui qui va ressusciter les morts au dernier jour. On a vu ça au verset 40, au verset 44 du chapitre 6. Mais c'est trop, il n'y a que Dieu qui peut ressusciter les morts. Qui peut l'entendre? Autrement dit, qui peut accepter cela? Qui peut accepter un tel discours? Sans doute que c'est une question rhétorique à la base. Mais cette question, qui peut l'entendre? Eh bien, Jésus va en quelque sorte y répondre. Il la prend au sérieux. Mais en fait, il enfonce le clou, il va encore plus loin. Et en gros, si je paraphrase un peu les versets 61 et 62, Jésus leur dit, ça vous choque, mais vous n'avez encore rien vu. Et il poursuit en disant que non seulement il est descendu du ciel, d'auprès de Dieu, mais aussi qu'il va remonter auprès de Dieu, puisque c'est de là qu'il vient. Par là, Jésus évoque sa résurrection et son ascension à venir, mais peut-être aussi sa crucifixion elle-même. Dans l'évangile de Jean, on voit que pour Jésus, la crucifixion, c'était déjà un signe, paradoxalement, de son triomphe. Jésus est élevé aux yeux des hommes, son triomphe sur le mal et la mort, et son élévation auprès du Père. Donc à ceux qui voudraient que Jésus modère un peu ses paroles, hein, qui disent non, non, mais attendez, c'était une image, calmez-vous. Eh bien non, en fait, il monte encore d'un cran. Il refuse de minimiser l'importance de sa personne. Et là, on fait face une fois de plus au choix que chacun d'entre nous doit faire face aux affirmations de Jésus. On cite souvent cette célèbre phrase de C.S. Lewis en réponse à l'affirmation que Jésus, c'est l'un des grands hommes de l'histoire, hein, mais que c'est quand même pas le Fils de Dieu, qu'il ne faut pas exagérer. Eh bien, en réponse à cela, C.S. Lewis a écrit, ça vaut la peine de le citer à nouveau, « Un homme qui ne serait qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand maître moral. Il serait soit atteint de folie, je suis le pain qui vient du ciel, soit le démon de l'enfer. » Vous devez choisir. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit c'est un fou, ou pire encore. Mais revenons à notre question. Qui pourra entendre ces paroles si dures que Jésus a prononcées? Eh bien, Jésus va répondre indirectement à la question. Au verset 63, il dit ceci et... ça peut nous paraître un peu cryptique comme vocabulaire à première écoute. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Ce discours était plus clair aux personnes de l'époque. Parce que dans la pensée juive de l'époque, la chair, en gros, c'est tout ce qui relève de l'homme livré à lui-même. C'est la nature humaine sans l'intervention de Dieu. Et ce que Jésus affirme ici, c'est que si on reçoit ces paroles comme de simples paroles humaines, et que si on a une vision uniquement humaine en recevant ces paroles, sans discerner que c'est Dieu qui parle par Jésus, que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en Jésus et qui communique la vie par Jésus, si donc on reçoit les paroles simplement comme les paroles d'un grand sage, eh bien on se trompe, on va dans le mur. Si on écoute Jésus comme on écoute tel ou tel grand philosophe, eh bien, on va sûrement trouver hors contexte des choses qui nous plaisent. On va trouver des phrases comme « Aimez-vous les uns les autres ?»« Heureux les artisans de paix !»« Laissez venir à moi les petits-enfants !» Voilà, on aime bien ces phrases de Jésus. Mais on va aussi trouver des choses qui nous choquent profondément. Parce qu'un simple homme n'a pas le droit de parler ainsi. Et c'est vrai, un simple homme n'a pas le droit de parler ainsi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham n'existe, je suis. Le Père et moi, nous sommes un. Ce sont des choses que Jésus a dites. Mais si ce que Jésus dit de lui-même est vrai, ça change tout. Pour chacun ici présent ce soir, ça change tout. Parce que du coup, on va pas pouvoir simplement intégrer quelques citation sympathique de Jésus dans sa petite philosophie maison qu'on se construit, mais on va devoir le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. On va devoir se précipiter pour le connaître et pour vivre en relation avec lui. Qui peut entendre et accepter les paroles de Jésus? Eh bien, ce sont ceux qui croient de tout leur être que Jésus est bien celui qu'il affirme être. Celui qui ne sépare pas ce que Jésus a dit de ce que Jésus est, ceux qui reçoivent Jésus parce qu'ils reconnaissent en lui le Sauveur du monde, le Seigneur de l'univers. Et les disciples, entre guillemets, les disciples sympathisants qui avaient écouté le discours de Jésus, bah, c'était trop pour eux, c'est trop demandé. Verset 66, « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. » Et c'est ce constat qui va pousser Jésus à poser une deuxième question. Et ça sera notre deuxième point. Voulez-vous aussi vous en aller? Voulez-vous aussi vous en aller? J'ai beaucoup de tristesse en pensant à certaines personnes qui ont perdu, ou en tout cas pour un temps, qui ont laissé de côté la foi chrétienne. Je n'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-unes. Je pense à une ou deux personnes que je connais personnellement. Ou encore à l'un ou l'autre exemple célèbre, il n'y en a pas énormément, mais encore une fois, il y en a quelques-uns. Par exemple, Jonathan Edwards, un athlète britannique, il ne faut pas confondre avec le théologien du même nom, mais donc l'athlète Jonathan Edwards, qui avait ouvertement professé sa foi chrétienne, très publiquement, eh bien, il a déclaré il y a quelques années qu'il ne croyait plus. Voilà. Et on peut se sentir déstabilisés par de tels exemples. Mais Jésus, lui, n'est pas surpris. Déjà pendant son ministère sur terre, beaucoup l'ont quitté, après avoir pourtant déclaré leur foi en lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 67. Face à la radicalité du discours que Jésus vient de donner, certains ils préfèrent passer à autre chose. Écouter un discours qui va mieux s'accorder avec la culture, avec la civilisation de l'époque. Et donc Jésus va se tourner vers les 12. Et les 12, on sait que c'est le cercle le plus restreint de ses disciples. C'est peut-être à ce moment-là quasiment les seuls qui lui restent. Ensuite, d'autres vont à nouveau se joindre à lui, mais peut-être qu'à ce moment-là, ce sont presque les seuls qui lui restent. Et il leur donne en quelque sorte l'occasion de partir aussi. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? Alors, il ne faudrait pas interpréter cette question comme une déception de Jésus qui voit ses disciples sympathisants s'en aller et qui dit « Et vous aussi, vous allez y aller ?» Non, Jean, lui-même souligne au verset 64 que Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Autrement dit, il savait très bien faire la différence entre la foi profonde et authentique et l'enthousiasme d'un moment. Et en posant aux 12 cette question « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Jésus va plutôt leur donner l'occasion d'affirmer l'authenticité de leur foi. Et comme souvent, c'est Pierre qui va prendre la parole. Verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, Pierre croit que Jésus dit vrai. Parce qu'au verset 63, Jésus a affirmé, « Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Ce qui signifie qu'elle donne la vie véritable, elle donne la vie éternelle par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre dit, « Eh bien oui, je crois cela. » C'est un moment décisif dans le parcours de Pierre. Il aura plus tard des moments de faiblesse, notamment ce moment le plus sombre sans doute, la nuit où, alors que Jésus comparaissait devant les autorités religieuses, Pierre l'a renié trois fois. Trois fois, il a dit « Non, non, je ne le connais pas » pour sauver sa peau. Donc ça montre que reconnaître que Jésus a les paroles de la vie éternelle et croire en Jésus, reconnaître verset 69 qu'il est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Messie, ça n'empêche pas que la vie chrétienne ait des hauts et des bas et qu'il y ait même parfois de douloureux échecs de notre foi. Mais dans sa grâce, Dieu a choisi de nous aimer malgré nous, malgré nos manques de foi, nos périodes difficiles, nos doutes. Au verset 39, plus tôt dans le chapitre 6, Jésus a déjà dit que la volonté de son Père, c'est de ne perdre aucun de ceux qu'il a appelés à lui et qui ont confié leur vie à Jésus. Et ça implique que les disciples authentiques persévèrent. Les disciples authentiques persévèrent. Et c'est même une marque d'authenticité, une preuve d'authenticité de la foi, la persévérance. Dans nos milieux protestants évangéliques, nous insistons, à juste titre, je crois, sur la conversion, ce demi-tour de la vie par laquelle nous cessons de vivre centrés sur nous-mêmes et nous vivons, nous affirmons vouloir vivre centrés sur Dieu et nous donnons notre vie, nous confions véritablement notre vie à Dieu grâce à Jésus-Christ. La conversion. Et c'est capital. Mais peut-être que parfois nous oublions un autre aspect qui est aussi important pour la foi, et c'est la persévérance. La vie chrétienne authentique se manifeste non seulement par la conversion, mais elle se manifeste par la persévérance. La vie chrétienne, ce n'est pas tellement un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est une longue marche, entremêlée de plaines verdoyantes, c'est vrai, mais aussi de sombres vallées parfois. Or, qu'est-ce qui nous permettra de persévérer dans ces moments-là, dans les moments où c'est plus dur ? Alors, posons-nous peut-être la question pour des choses de la vie quotidienne. Pourquoi est-ce que, par exemple, la plupart d'entre nous ne quittent pas leur travail brusquement lorsqu'il y a eu une mauvaise journée ? Voilà, mauvaise journée, hop, c'est fini, je donne ma démission. C'est rare que ça se passe comme ça. Peut-être après deux mois de mauvaise journée, oui, mais pas une mauvaise journée. Pourquoi ? Parce que nous estimons que cet emploi, il est précieux. Peut-être que pour certains, leur emploi, ils ne l'aiment pas tant que ça, mais il est précieux, il est important. Les difficultés d'une journée ne sont pas suffisamment importantes pour remettre en question la valeur qu'apporte ce travail. Ou bien je pense à un exemple complètement différent. Je pense à ces couples qui durent depuis des décennies. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes parents qui vont fêter leurs 40 ans de mariage cette année. Qu'est-ce qui leur permet de persévérer dans les moments plus difficiles? Eh bien, je pense que c'est la valeur qu'ils accordent à l'engagement qu'ils ont pris. Eh bien, par le même principe, plus on considère Jésus comme précieux, comme vital, plus on va persévérer. Si on voit en Jésus un fournisseur de bien-être, celui qui fait en sorte que notre vie soit facile et confortable, alors c'est sûr que quand ça ira moins bien, on dira, en tant que client, je ne suis pas satisfait, et on sera tenté de dire, alors Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je te donne encore une deuxième chance, mais après c'est fini. Mais si on voit Jésus comme celui qui nous aime de façon inconditionnelle, si on voit Jésus comme celui qui nous a précédés sur le chemin difficile de la foi, qui lui-même a traversé la souffrance et qui nous emmène à bon port auprès de notre Créateur, alors dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'accrocher encore plus à lui. Peut-être que certains ce soir, sans doute que certains ce soir, passent par des temps de lassitude et d'épreuve. Peut-être pour certains, vous êtes fatigués de faire des choix de vie qui sont très différents de ceux qui vous entourent, par fidélité à Jésus-Christ. Ou bien peut-être que vous faites face en ce moment à une épreuve douloureuse, une maladie, ou bien une épreuve dans votre vie professionnelle ou familiale, personnelle. Voulez-vous aussi vous en aller? À l'inverse, peut-être que la vie est très confortable en ce moment. Alors, je ne sais pas, pour les uns, peut-être que vous avez le CDI, vous avez le salaire, vous avez le conjoint, vous avez les enfants, vous habitez à Paris plutôt qu'en Syrie, vous vivez une vie tranquille, plutôt sympa. Et peut-être que parfois, ce confort immédiat vous fait, ou nous fait, perdre de vue combien nous dépendons de Jésus pour notre vie entière et notre vie quotidienne. Dès aujourd'hui et pour toujours, nous dépendons de Jésus. Et parfois, on l'oublie. Et peut-être qu'on est tenté subtilement de reprendre petit à petit le contrôle de notre vie. Un jour, oui, on a dit « Seigneur, je te donne tout ». On a peut-être chanté ici à la RDS le chant « Je te donne tout ». Prends mon corps et prends mon âme, etc. Entre tes mains, j'abandonne. Mais après, petit à petit, on va quand même récupérer un petit peu le contrôle de notre vie. Parce que finalement, on ne s'en sort pas trop mal comme ça. Et à nous aussi, si c'est notre cas, Jésus demande « Est-ce que vous voulez aussi vous en aller ?» Que nous soyons dans une situation de souffrance ou d'insouciance, Jésus nous pose cette question. Mais il la pose pour nous donner l'occasion de réaffirmer notre foi en lui. Pierre a répondu à cette question par une autre question. Et ça sera notre dernier point et notre conclusion. À qui irions-nous? Ici encore, nous avons une question rhétorique. À qui irions-nous, Seigneur, quand Pierre pose cette question, il ne s'attend pas à ce que Jésus lui donne une liste de possibilités. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, ou bien il y a Lévi, Yitzhak là-bas. Non, la réponse est évidente. À qui irions-nous? C'est-à-dire, il n'y a que toi. Pierre a compris qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui peut donner ce que Jésus donne, c'est-à-dire les paroles de la vie éternelle. Ce que Jésus dit, nous avons un besoin vital de l'entendre. Ce que Jésus dit donne la vie. Et c'est terrible de passer sa vie sans se nourrir des paroles de Jésus. C'est une question de vie ou de mort. Alors dans notre monde ultra pluraliste, on n'aime pas devoir faire des choix. Et ça se traduit par les plus petites choses. Je veux regarder la télévision et surfer sur Internet en même temps. Et puis en écoutant de la musique aussi. Et j'ai pas envie de choisir. Ou bien dans les choses un peu plus importantes. Je veux bien m'intéresser à Jésus, mais alors aussi à Bouddha, aussi à Gandhi, aussi à Mandela, ou peut-être à Nabila pour certains. Cherchez l'intrus. Mais Jésus ne nous donne pas ce choix. Jésus ne nous donne pas ce choix. Jésus nous dit, c'est moi ou la mort. Et plus loin au chapitre 15, il va dire à ses disciples, le soir avant sa mort sur la croix, il va leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en disant cela, Jésus parlait non pas de bouger ses mains ou de marcher, d'aller au travail, même si ça aussi, c'est Dieu qui nous permet de le faire. Mais il voulait parler avant tout de la vie véritable qu'il offre à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire qui a une valeur éternelle. Et ça, c'est un rappel pour ceux qui sont déjà chrétiens, c'est sans doute la majorité ce soir. Un rappel pour nous d'arrêter de juger la qualité de notre vie aux circonstances extérieures. C'est vraiment notre tendance, c'est la mienne aussi. Je juge la qualité de ma vie à mes circonstances extérieures. Et c'est une réaction logique si on n'a pas l'espérance en Jésus-Christ. Mais si nous avons Jésus, nous avons tout. Nous avons un bien qui surpasse tout ce qu'on peut trouver par ailleurs dans l'univers. Ce que Jésus nous dit ici, c'est aussi un appel pour ceux qui ne sont pas encore venus à lui et qui, peut-être pour certains, sont encore à l'état de sympathisants. Il y en a peut-être parmi nous ce soir, ou peut-être même pas encore sympathisants, simplement curieux de ce que nous enseignons, ce que les chrétiens croient, ou peut-être que vous avez juste voulu être gentil avec la personne qui vous a invité, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes là ce soir. Et ces paroles de Jésus, il faut les entendre. Si Jésus a vraiment les paroles de la vie éternelle, si Jésus est vraiment, comme il l'a dit, le chemin, la vérité et la vie, chapitre 14, verset 6, alors il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre personne où on va pouvoir trouver le but et le sens de notre vie. Et je voudrais m'adresser particulièrement à ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Parfois, on entend des athlètes ou autres célébrités, lorsqu'ils ont réussi un exploit ou lorsqu'ils ont été dans un film ou ils ont eu un concert énorme ou je ne sais quoi. Et parfois, c'est un cliché qu'on entend. J'ai été créé pour ça. Je me trompe peut-être, mais je crois que le perchiste Lavillenie a dit ça. J'ai été fait pour ça. À vérifier, mais je crois que je l'ai entendu dire ça. Si vous êtes là ce soir et que vous entendez l'appel de Jésus-Christ, si vous y résistez encore, tant bien que mal, je voudrais vous dire, et je le dis avec conviction, vous avez été créé pour ça. Vous avez été créé pour connaître Jésus-Christ. Créé pour connaître votre Créateur et pour vivre en harmonie avec lui. Ce Dieu que vous aviez oublié, tous nous avons dans un sens oublié Dieu, à un moment ou à un autre, eh bien ce Créateur, il veut se faire connaître de nous, de vous, par Jésus-Christ. Celui qu'il a envoyé comme sauveur du monde. Et ce soir, vous pouvez devenir disciple de Jésus-Christ. Pas un disciple en CDD, pas un sympathisant qui se détournera lorsque les choses seront plus dures ou lorsqu'il passera à un autre intérêt. Mais Dieu n'est pas déstabilisé par cela, parce qu'il a le contrôle de tout cela. C'est lui qui appelle à lui ceux qui deviendront ses véritables disciples. Il y a là un mystère entre la souveraineté de Dieu et la volonté humaine. La Bible affirme les deux harmonieusement. C'est difficile pour notre intellect de pleinement le comprendre, mais la Bible affirme les deux avec force. Dieu sait ce qu'il fait, il a le contrôle de toutes choses, et en même temps, il nous appelle à une authentique réponse de foi. Dieu sait ceux qui deviendront ses véritables disciples. C'est lui qui appelle ceux qui le suivront sur le chemin de la foi. C'est un chemin difficile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable. Alors si vous entendez sa voix, ce soir, non pas la mienne, mais la voix de Jésus, n'attendez plus. Le moment est venu. Amen.